quart d'heure avignonnais est déjà bien entamé. Donc, attention à ce soir, Mistral, quand même, pour ce soir et sans doute demain. Donc, j'adore donner les informations météo comme ça. Alors, vous savez qu'il est d'usage, à ce conférence de presse bilan, de vous donner quelques indications chiffrées sur la fréquentation du festival. Donc, je ne vais pas trop quand même m'étendre sur tous les chiffres. D'ailleurs, vous aurez un petit communiqué sur les chiffres. Je vous dirais que globalement, le festival a connu une fréquentation stable par rapport à l'édition précédente, avec 110 000 places délivrées, dont 98 000 payantes. Voilà, ça c'est un chiffre évidemment qui nous importe tout particulièrement. Alors nous espérions, je ne vous le cache pas, un tout petit peu plus, dépasser les 100 000, mais comme vous le savez, certaines représentations ont dû être annulées, soit à cause du vent, c'est arrivé déjà, notamment pour le chapiteau de Clairlanne, soit surtout à cause de la pluie, et tout ça représentant environ 3000 places, 3000 annulations. Alors, le taux d'occupation, si je puis dire, puisque nous avions prévu une jauge plus importante, atteindra cette année 81,5%, ce qui est quand même tout à fait satisfaisant. Ce que l'on peut constater, effectivement, c'est que la première semaine est toujours un petit peu molle, dans la mesure où nous avons, c'est vrai, commencé très tôt. Et le public, le grand public festivalier n'est pas encore là. Il vient vers le week-end du 14. Donc, au départ, les salles n'étaient pas complètement remplies. Après, évidemment, on doit refuser de la place. Mais enfin, on n'arrive pas franchement à faire changer de date de vacances les Français qui nous rejoignent. Ceci dit, à noter une augmentation régulière maintenant des tarifs jeunes, parce qu'on nous avait posé la question, vous savez, c'est les tarifs appliqués aux guichets, aux jeunes, étudiants, chômeurs, etc., qui a concerné en 2002 déjà 7% du public, c'était 5% les années précédentes, donc ce taux augmente régulièrement, ce qui confirme aussi un certain renouvellement du festival. Voilà, donc je ne vais pas vous gaver de chiffres. Au plan d'évaluation, disons, qualitative, vous êtes certainement tous mieux placés que moi pour la faire, enfin chacun l'a fait à sa manière, mais je tiens quand même à souligner deux ou trois faits que toute l'équipe autour de moi ont retenu. D'abord, la qualité des deux créations prévues pour la cour, que ce soit le Plateau Neuf, dans la mise en scène d'Éric Lacascade, que ce soit Sacha Valls. Je crois que c'était très intéressant parce que ces spectacles ont vraiment été pensés pour la Cour d'honneur. D'ailleurs, ils ont très bien mis en valeur la Cour d'honneur. C'était le résultat d'un travail de 2 ans pratiquement avec ces artistes pour réfléchir à cela d'un long temps de répétition, y compris au mois de juin, dans une Cour d'honneur remodelée et qui, je crois, globalement, a donné tout à fait satisfaction. Nous aurons encore quelques petits détails à corriger l'année prochaine. Christian est en train de relever un long relevé des petites précisions ou améliorations techniques que l'on peut faire, notamment sur le bruit. Donc, je crois que ces deux spectacles ont été les spectacles phares, c'est vrai, du festival. Alors, on a dit aussi, et c'est vrai, que ce fut cette année une programmation plus exigeante, mais aussi plus excitante. Voilà, plus exigeant, plus excitant, je crois qu'on peut retenir cette idée. Sans facilité en tout cas, ni star, on nous l'a dit. Alors parfois pour nous en remercier, parfois pour nous le reprocher, mais vous savez que la problématique du Festival d'Avignon ne tourne pas autour de la star. Enfin, il y en avait une, effectivement, c'est Michel Bouquet, mais c'est justement la star de la discrétion et de la rigueur. Donc voilà, c'était... Comme je rappelle souvent, ce sont plutôt les œuvres qui sont les stars du festival. Ensuite, beaucoup d'écritures contemporaines, hein, elles étaient tout à fait majoritaires cette année, du début, Prométhéo par exemple, de Rodrigo Garcia, jusqu'à la fin, en ce moment, Martine McDonagh ou Georges Tabori, donc deux auteurs vivants. Et donc c'était intéressant parce que le public a vraiment suivi ces écritures contemporaines. Ce n'est pas évident, évidemment, pour le public de faire des choix. Il y a une telle offre, évidemment, à Avignon. Le choix d'auteur qu'il ne connaît pas. Je crois aussi que ce qui était très important, c'est qu'on a vu comme une constellation d'univers artistiques très forts. Et c'est vrai que ce fut souvent le critère de choix, notre critère de choix, d'avoir des artistes qui soient capables d'exprimer un univers artistique très fort, même s'il est très différent. C'était très divers, très différent les uns des autres. Alors, je vais en citer quelques-uns. Je peux en citer des Français, je peux en citer des étrangers. Mais enfin, on aura tous noté l'accueil, la curiosité réservée à Romeo Castellucci et à la Societas Raffaello Sanzio, à la troupe de Pippo Del Bono, qui joue encore à l'Espace Saint-Jean, à Rodrigo Garcia aussi, qui est un univers bien à lui, Denis Marlow et ses fantasmagories technologiques, ou encore Fadel Jaibi ou Christophe Warlikowski, qui, évidemment, je crois que le théâtre polonais a particulièrement su manifester sa vigueur ici à ce festival. Mais ces univers artistiques, on le retrouve aussi dans la danse, hein, comme Sacha Valls, comme Joseph Nadge, aussi, qui a parcouru tout le festival, Catherine Diveres, et enfin le vif du sujet. Alors je crois aussi que cela tient au fait que beaucoup d'artistes, et dans beaucoup de cas, les artistes ont véritablement créé pour les lieux d'Avignon. Et ça, c'est important, c'est même parfois la clé d'une réussite. Alors, tous l'ont fait à leur manière, de Jean-Claude Fall dans la Cour Saint-Joseph, à l'équipe du Fun, avec Légumes, qui a particulièrement bien mis en valeur, je crois, un monument historique à Villeneuve-les-Avignon, ou Jean-Michel Bruyère, pour lequel on a complètement transformé un lieu, ou jusqu'à Christophe Huisman et ses expériences matinales. Alors, tout ça pour dire que je tiens vraiment à remercier toutes les équipes techniques du festival qui œuvrent sous la direction de Christian Villemar, parce que j'ai l'impression qu'elles font partie vraiment des meilleures équipes européennes qu'on puisse trouver. C'est un tel défi que vous ignorez le plus souvent que de réaliser les lieux qui conviennent aux artistes. Et on a en retour tellement de remerciements de la part de ces artistes que je voudrais vraiment les transmettre à tous les techniciens du festival. Techniciens qui, je le rappelle, sont des intermittents du spectacle, c'est-à-dire des techniciens qui ont un statut qu'il faut absolument conserver en France. Et je peux vous dire que la direction du festival a aussi appuyé les revendications qui me paraissent tout à fait légitimes concernant le maintien de ce régime. Donc, pour que, face à une programmation exigeante, face à beaucoup d'auteurs contemporains, face à des expériences même troublantes, le public soit toujours en rendez-vous, ça prouve que le public, ça prouve la qualité du contrat de confiance que le public a, entretient avec le festival, comme le confirme d'ailleurs l'étude d'Emmanuel Etis, de l'Observatoire permanent du public, étude menée depuis 6 ans déjà, et qui a été publiée sous le nom de Le public réinventé. Et je crois que il faut le lire, justement, ce livre qui recèle beaucoup d'informations plus judicieuses que parfois la rumeur n'en dit sur la composition et la qualité de ce public. Je crois que grâce à ça, et parce que le public est très actif, le festival est plus que jamais un vrai lieu de rencontre, un vrai lieu de formation des spectateurs, avec aussi les propositions du festival de débats, de lectures, de toute une série de manifestations connexes jusqu'au cinéma, qui ont tous figuré d'ailleurs dans le guide très apprécié du spectateur. Je me tourne vers Nathalie, qui en était la maîtresse d'œuvre, et donc qui ont été très utiles pour le public. Donc voilà ce que je peux dire rapidement, mais il faut aussi que je vous parle de l'avenir du festival. Donc là, je vais me référer peut-être à un texte, je n'aime pas trop ça, mais enfin bon, il vaut mieux le faire, qui, de toute façon, dont vous aurez communication par l'entremise du service de presse. Alors, pour vous dire que, je parle en mon nom et en celui de Christiane, que nous sommes donc très heureux de l'évolution du festival, que la cour a été rénovée, que les locaux ont été réaménagés, c'était un déménagement important, l'équipe a été rajeunie, ils sont tous autour de moi, et la communication remodelée. Donc le festival ressemble de plus en plus, évidemment, à ce que nous souhaitons qu'il soit. J'espère que cette pente ascendante, qui est l'anneau depuis quelques années déjà, se prolongera donc l'année prochaine, 2003, qui est aussi l'année du terme du mandat que Christiane Bourbonneau et moi avons reçu. Alors qu'en sera-t-il ensuite ? J'avoue que dans un premier temps, j'ai songé à continuer l'aventure et Je me suis ouvert donc au ministre de la Culture, c'était le premier dimanche du festival, de mon désir d'accomplir un dernier mandat. Mais comme dirait Martial Di Fonzobo, peut-être ne faut-il pas mener le dernier combat de trop. Sylvie Hubach, directrice du théâtre et des spectacles, puis Jean-Jacques Ayagon, lui-même, m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient un changement. Alors, cela m'a un peu surpris, voire raidi dans un premier temps, car tout simplement, la direction du festival n'est pas un métier comme les autres. Ça engage l'être tout entier, je crois. Le festival vous colle à la peau, devient votre vie, et vous demander d'arrêter, c'est un peu comme demander à un comédien de cesser de jouer parce qu'il n'a plus l'âge du rôle, ou à un metteur en scène de cesser de se battre pour ses projets. Mais j'ai quand même eu le temps, pendant ce festival-ci, de faire le travail de deuil, dont on parle si souvent. Et de toute façon, je sais bien que le festival ne pourrait continuer sans l'appui total, moral et financier de ses tutelles. Alors, ses tutelles m'assurent que ce n'est pas pour changer les grandes orientations du festival, ni pour avoir démérité. Il est plutôt question, me dit-on, de longévité et de génération. Voilà, deux critères mêlés. Alors, longévité, car je suis moi-même au terme d'un double quinquennat, qui est le chiffre magique, vous le savez, de la vie politique et culturelle française maintenant, sans compter d'ailleurs les années accomplies dans les années 80 dans une vie antérieure. Remarquez que je ne détiens pas le record de longévité de l'autre pays, parce que d'éminentes manifestations perdurent sous la direction de leur directeur fondateur. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître, Avignon est un cas particulier parce qu'il est très emblématique, très symbolique. Et je crois qu'effectivement, à Avignon, les années comptent double. Donc longévité, mais aussi question de génération. Et sur ce plan, je ne puis que me ranger à des avis amicaux, puisqu'après tout, je fus moi-même, sans l'avoir voulu d'ailleurs, un jeune directeur de 35 ans, mais il y a de ça quand même déjà 22 ans. Alors, j'en profite pour dire cependant que, n'accusant que 2 ans de plus que notre ministre, je ne me sens ni usé ni fatigué, pour reprendre une expression devenue proverbiale, et que je suis prêt à continuer à travailler dans le service public de la culture que, ma vie professionnelle durant, j'ai toujours servi. Mais je suis si conscient quand même de la nécessité de faire place à une nouvelle génération, à ses goûts, à ses références, à ses préoccupations, que j'ai donné de plus en plus de responsabilités dans mon équipe à des Vincent, Vincent Baudrier, Nathalie Sultan, Nathalie Vimeux, Hortense Archambault, Christian Villemar, Rémi Faure, qui maintenant, je crois, allient tout à fait dynamisme et expérience, et se sont avérés en tout point des plus capables. Voilà. Cela dit, sans vouloir désespérer les professionnels de la profession de mon âge, de ma génération. Alors, je ne sais pas, évidemment, sur quel profil et sur qui, finalement, le choix conjoint, parce que c'est un choix conjoint, de Madame le maire et de Monsieur le ministre s'arrêtera. Je ne vais pas d'ailleurs révéler de secret ministériel en vous disant que Jean-Jacques Ayagon souhaite annoncer le nom de mon successeur à l'automne, vraisemblablement en octobre. Mais je souhaite juste faire remarquer, et je le ferai aussi et je le dirai au ministre lui-même, que le Festival d'Avignon n'est pas une institution comme les autres. Ce n'est pas vraiment une institution pérenne, ce n'est pas un établissement public. C'est une manifestation, évidemment, à laquelle nous tenons tous, d'ampleur nationale et internationale, et on y tient parfois pour des raisons contradictoires. Mais c'est une manifestation qui repose un peu sur des pieds d'argile. Et parfois, on ne le sait pas. Le festival est en effet le travail d'une équipe, je dirais, amicale, voire familiale, dans son esprit, dont chaque membre, ici présent, détient une histoire, un savoir-faire, une compétence précieuse et indispensable à tous les autres. Il est donc très important que ne se désagrègent point toutes les composantes du festival. Bon, en attendant, nous avons encore un festival à bâtir. Ce sera donc le dernier pour Christiane et pour moi. Christiane, je vais essayer de la faire rougir, c'est difficile. Pièce maîtresse, axe central d'une logistique complexe, en prise directe avec Avignon, avec ses lieux, avec ses partenaires, avec sa municipalité. Donc, qu'elle soit déjà remerciée de son travail de l'ombre parfois ingrat, mais toujours indispensable. Alors je ne puis pas annoncer, à mon grand regret pour l'instant, en détail le pré-programme du 57e festival, pas même ses dates à vrai dire. Nous avons encore à analyser de façon précise le meilleur calendrier possible pour que justement les spectacles rencontrent leur public. À l'automne, et j'en termine, à l'automne donc doit être signée une convention pluriannuelle par les quatre collectivités publiques financeurs du festival, c'est-à-dire l'État, la ville, la région, le département. Je crois que c'est une excellente chose. D'ailleurs, nous l'avons souvent réclamé, Christiane et moi. J'espère simplement que pour 2003, qui sera à la fois la première année d'application de cette convention et la dernière de notre mandat, que les collectivités locales et l'État auront à cœur de nous donner les moyens d'une dernière année brillante, conforme à nos désirs. C'est à mes yeux, je dirais presque, une question d'élégance morale, qualité d'ailleurs dont on crédite volontiers notre ministre. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour le mois de juillet 2003. Merci.